savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour à tous et bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie.
Ce samedi, nous ouvrons les dossiers de la rentrée du cinéma dans tous les cinémas du monde. Qu'en est-il de la fréquentation dans les salles depuis la réouverture, alors en France en juin dernier, de la production à l'exploitation en passant par les tournages et puis la distribution? Comment se portent les filières du 7e art? Comment s'adapte-t-on à une réalité mondiale fluctuante et par définition imprévisible? La pandémie de Covid-19 rabat-elle toutes les cartes ou est-elle surtout un formidable accélérateur de transformation déjà en cours avec l'explosion des plateformes de streaming? Dans ce contexte, à quoi peuvent ressembler les festivals par temps de Covid? Une tentative un peu désespérée de revenir au monde d'avant ou la préfiguration de ce qui nous attend avec les projections virtuelles? Elisabeth, vous rentrez d'ailleurs tout juste de la Mostra de Venise, le premier grand festival international à avoir pu reprendre, et vous nous direz à quoi ressemblait le Lido et ses écrans. Nous irons également en Inde, en Chine et au Canada avec nos correspondants. Et puis, nous recevons en studio deux invités, deux témoins privilégiés de l'état du cinéma. Étienne Aulagnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le co-directeur de la société de distribution Jour de Fête et président du syndicat des distributeurs indépendants. Et puis, vous revenez des festivals d'Angoulême et de Deauville. Et bonjour Fernando Ganzo.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la prestigieuse revue Les Cahiers du Cinéma, après avoir dirigé la rédaction de SoFilm. Alors, une première question avant de prendre la température de la Mostra ou de Toronto. Une première question à tous deux, Étienne Aulagnier, Fernando Ganzo. Vous la voyez comment cette reprise, certes incertaine, hein, c'est la possibilité d'un retour à une situation pré-Covid ou la préfiguration d'un nouveau monde?
Je ferais plutôt le choix ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire, c'est une façon de survivre entre les deux, jusqu'à arriver à un cadre dans lequel on pourra aller au cinéma vraiment normalement. Mais c'est pas pour demain, donc il faut trouver une solution intermédiaire qui permette que la chose ne s'effondre pas d'un point de vue industriel. Je garde quand même l'espoir que dans quelques mois ou à peine quelques années, on pourra revenir à quelque chose de ce qu'on appelait avant normal, dont le fait d'être assis devant un film dans une salle de cinéma ou dans une filmothèque, cinémathèque ou dans un festival.
Étienne Aulagnier, je vous vois acquiescer.
Je crois que pour nous tous, la fermeture des salles au mois de mars, comme la fermeture de tous les lieux culturels, puis des restaurants, etc., ça a été un énorme choc. Et la réouverture, je pense que c'était un besoin vital. Alors c'est sûr que dans les restaurants, on en avait vraiment besoin parce qu'il faut manger. Mais le cinéma, on en avait aussi besoin, et pas seulement nous les professionnels. Je crois que le public avait une vraie envie de retourner partager des films sur grand écran. Enfin, je crois qu'effectivement, pendant le confinement, beaucoup de gens ont vu des films, mais l'expérience de la salle et du partage et de l'émotion sur grand écran, ça, il y avait un vrai manque. Et on a senti dès la reprise que les gens avaient envie de revenir. Après,
une reprise timide, parce qu'on dit que...
C'est une reprise timide qui est liée à plein de facteurs. Je pense que la peur pour certaines tranches de population, notamment les plus fragiles, qui sont en particulier ceux qui viennent voir les films que moi je sors au cinéma, les films à réessai, ça a joué un peu sur la fréquentation. L'absence de certains films au cinéma, les films américains, a aussi joué sur d'autres types de fréquentation. Donc c'est une reprise timide, mais en même temps, il y a eu finalement une offre très riche cet été, de films d'auteurs, de films étrangers, de films de patrimoine. Et certains de ces films ont vraiment tiré leur épingle du jeu, certains films français ou certains films étrangers.
Alors c'est dans ce contexte que reprennent les grands rendez-vous internationaux. Et évidemment, donc la Mostra de Venise qui s'achève ce samedi, c'est le premier grand rendez-vous cinéphile depuis le début de l'épidémie. Hein. C'est l'un, je crois d'ailleurs, le plus vieux festival du monde, un des plus prestigieux. Elisabeth, vous êtes rentrée lundi dernier de la Mostra. C'était donc le premier festival à tenir une édition physique depuis le début de la pandémie. Et en soi, c'est un événement.
Oui, bien sûr. Et puis c'est peu de dire que cette édition physique de la Mostra
Mostra, c'était un symbole fort pour le monde du cinéma qui a été complètement chamboulé par l'épidémie. Alors lors de la cérémonie d'ouverture, d'ailleurs, il y avait, je crois, 8 directeurs de grands festivals internationaux, dont Thierry Frémaux, bien sûr, pour Cannes, et Carlo Chatrian pour Berlin, Lilia Instinct pour Locarno, enfin, dans un mouvement de solidarité assez rare, il faut bien le dire, hein, dans ce milieu. Donc Alberto Barbera, qui est le patron de la Mostra, a dit c'est le festival du courage. Et quant à Giorgio Gozzetti, qui dirige l'une des sections parallèles, Venice Days, lui aussi considère que la Mostra se devait de montrer l'exemple. Je l'ai rencontré quelques minutes, devrais-je dire, avant la cérémonie d'ouverture. Il m'a confié que son cœur battait.
Ça peut réouvrir des portes. Moi, j'ai le cœur battant en sachant qu'il y aura une équipe des films, un public, des images sur l'écran et qui seront tous ensemble. Et pour un cinéaste, je pense que c'est la chose la plus importante du monde.
Donc des films, mais évidemment, Elisabeth, cette édition, elle se fait au prix quand même d'une voilure réduite.
Oui, et de mesures de sécurité, alors sécurité sanitaire, bien sûr, extraordinaire, scanner thermique, on prenait la température des festivaliers plusieurs fois, une demi-douzaine de fois par jour, port du masque obligatoire à l'intérieur des salles et puis dans tout le périmètre du festival, c'était très très contrôlé, un mur de 2 mètres, un grand mur blanc, on en a beaucoup parlé, a été érigé autour du tapis rouge afin d'éviter tous les rassemblements de badauds. Voilà, vous auriez été déçue, Sophie, pas de selfie avec Georges Clooney cette année. Du coup, bon, l'ambiance était un peu étrange. Il y avait beaucoup moins de festivaliers que d'habitude, à 40% d'accréditation en moins, estimaient les organisateurs. Et pourtant, Pascal Diot, qui dirige le petit marché du film vénitien, lui confiait qu'il était assez agréablement surpris. Vous allez entendre pourquoi.
Pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, l'année dernière, j'avais 2700 professionnels. Cette année, j'en suis à 1200. Honnêtement, je ne comptais pas avoir autant de professionnels venant. Donc, je suis plutôt content. Mais ce qui montre aussi, si je puis dire, l'immense besoin que les professionnels ont de se rencontrer. J'en connais même qui viennent en voiture pour essayer de passer outre les frontières pour être sûr de pouvoir repartir, etc.
Donc quand même une affluence des festivaliers. Elisabeth, donc vous nous avez parlé masque, distanciation, enfin organisation. Mais alors, en ce qui concerne les films, quid de la compétition à Venise cette année ?
Eh bien, c'était aussi une édition très atypique. Alors d'ordinaire, Venise est la rampe de lancement pour les Oscars. On a pu y découvrir, je ne vais pas les citer tous, mais Gravity, Birdman, Roma, La La Land, le Joker, enfin autant de gibier à statuette, sauf que cette année le coronavirus a mis Hollywood par terre, donc c'est peu de dire que la programmation faisait profil bas. Le film français de la compétition, Les Amants de Nicole Garcia, est un ratage complet. Idem pour les deux films italiens que j'ai vus, Lachi de Daniele Lucchetti qui faisait l'ouverture et Padre Nostro, catastrophique. Idem pour un film polonais d'une lourdeur à mourir, Never Gonna Snow Again. Idem pour deux films qui étaient pourtant très attendus avec Vanessa Kirby, qui est l'étoile montante d'Hollywood, Pieces of a Woman du Hongrois Cornel Mundruszko et The World to Come, qui est une sorte de Brokeback Mountain très académique. Entre deux femmes au 19e siècle. Donc, des déceptions qui s'enchaînaient.
Il n'y a rien à sauver ?
Si, si. Alors, bon, honnêtement, je suis partie à mi-Mostra, donc j'espère que les films ont pris un peu de consistance après mon départ. Moi, j'ai eu deux bonnes surprises. En gros, un film en compétition, Miss Marx, de Susanna Nicchiarelli, qui avait fait une sorte de biopic très punk de Nico. Là, c'est un portrait de la fille cadette de Marx, et c'est un film, en fait, qui raconte comment on peut, ou justement comment il est impossible de vivre en accord avec ses valeurs, et ce qui est une grande question de cinéma à laquelle elle donne une réponse formelle vraiment époustouflante. Et puis bien sûr City Hall de Fred Wiseman, hors compétition, c'est un habitué de la Mostra, c'est une plongée dans les rouages de la mairie de Boston, c'est un film antidote à Donald Trump, mais c'est aussi une merveille d'architecture et de montage, qui questionne la question très américaine de la community, qu'on pourrait traduire un peu vite par communauté. Et bien sûr, Sophie, on y reviendra, puisque le film sort bientôt en salle.
Donc la Mostra, malgré tout, des films internationaux. Alors, est-ce que la tenue de cette Mostra, même si c'est dans un contexte très particulier, ça permet au monde du cinéma de rêver à un nouveau départ ?
Bah pas trop en fait, parce que l'épidémie repart de plus belle, parce que beaucoup disaient à la Mostra que la Vénétie passerait en zone rouge, serait bouclée dès la dernière heure de la Mostra, que beaucoup s'interrogeaient aussi sur la tenue ou non du dernier grand festival international de 2020, hein, qui est Saint-Sébastien, et que par ailleurs la gestion des invités reste très compliquée. Très aléatoire. Écoutez, Giorgio Gozzetti, c'est le patron de la section Venice Days.
Il y a certains pays dans le monde entier que l'Italie, les gouvernements italiens, empêchent de faire circuler dans un pays à l'autre. Le Brésil, comme le Chili, dans certaines conditions, la Chine, tout comme la Serbie, par exemple. Dans ce cas-là, on peut tout demander, on peut tout faire, mais on ne peut pas obtenir que les cinéastes arrivent à Venise, sauf si ils passent une quarantaine dans un pays admis. L'équipe serbe, malheureusement, on a essayé jusqu'à la dernière minute, et je comprends leur frustration et leur humiliation d'une certaine manière, parce qu'ils sont en bonne santé, mais la Serbie ne peut pas être reçue aux frontières italiennes aujourd'hui. Ça fait partie d'une liste établie par les ministères des Affaires étrangères qui s'appelle Blacklisted Countries. Et on ne peut rien y faire. C'est malheureusement un cas pénible. Quand on a choisi les films, on ne les savait pas encore, parce que les règles changent, et elles changent assez vite d'ailleurs. Même notre président du jury, qui est un cinéaste renommé, Nadav Lapid, qui vient d'Israël, a fait une longue procédure, a fait les tampons. Finalement, le gouvernement israélien et les gouvernements italiens avaient un accord qui lui permet de sortir d'Israël pour des raisons de travail et venir à Venise et juste au Lido, simplement au Lido pour des raisons de travail, avec trois tampons, un avant, un quand il arrive, un pendant sa résidence en Italie. Mais on a dû changer son voyage parce que la Suisse, où il devait changer d'avion, ne l'accepte pas. Ça, c'est les règles de l'État suisse. Donc, il doit faire un détour et passer par l'Allemagne pour arriver à Venise. Ça, c'est très concret. Et on passe nos journées à réscheduler, réétablir certains voyages selon ces règles.
Voilà, là, c'est un vrai casse-tête, donc on aura compris que rien n'est gagné pour l'instant. Étienne Olanier, quand on est distributeur de films indépendants et notamment de films étrangers, on est soumis à ce même type de casse-tête, non? Parce que ça doit faire partie de la promotion, faire venir les équipes, c'est vrai que c'est compliqué.
Oui, c'est très compliqué, c'est compliqué pendant les festivals, c'est sûr. Alors, il se trouve que j'étais heureux d'entendre parler du Wiseman, parce qu'on n'en est pas les distributeurs français, mais on est le vendeur international du film. Et là aussi, c'est compliqué, les ventes internationales des films, parce que les distributeurs partout dans le monde, comme nous, ont la problématique de ne pas pouvoir sortir les films dans les bonnes conditions. Donc, forcément, ils sont un petit peu dissuadés d'en acheter des nouveaux. Donc, c'est difficile de ce côté-là. Et puis, pour les sorties en France, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter. Moi, un peu comme tous mes confrères, on a décidé de continuer notre métier, donc de sortir des films. On en a même sorti davantage cet été. J'en ai sorti trois. D'habitude, j'en sors un l'été. On a tous joué le jeu, en tout cas pour les distributeurs français, d'essayer de faire notre métier dans ce marché très complexe, avec un public qui était là ou pas au rendez-vous. Et puis, on a du mal à se projeter dans les mois prochains. Là, c'est pareil. Nous, on a quatre sorties à venir très importantes à notre échelle. Pour certains des films qui ont reçu le label Sélection officielle à Cannes cette année et qu'on a pu présenter dans d'autres festivals à Angoulême ou Deauville. Donc tous ces films-là qui pour l'instant n'existent pas pour le public, qui existent pour les professionnels, parce que cette reconnaissance de Cannes, malgré tout, elle est forte. Ça nous donne une espèce de tremplin, mais on n'a pas eu le lancement du festival, qui est toujours une émotion énorme, qui est l'occasion pour certains films d'un buzz important. Et du coup, il faut qu'on travaille avec cette perspective difficile de sortie au mois d'octobre, novembre, dans un monde qu'on ne connaît pas encore. On espère évidemment que le Covid sera moins fort, moins présent dans nos vies, mais les derniers jours nous font un peu douter.
Vous, Fernando Ganzo, l'annulation de nombre de grands festivals internationaux, a commencé par Cannes en mai dernier, est-ce que ça vous a beaucoup entravé? Est-ce que ça a transformé votre travail? Je vous parle en tant que rédacteur en chef adjoint des Cahiers, mais aussi de critique de cinéma.
Ça change beaucoup de choses. Déjà, c'est un moment très fort. C'est vrai que pour les lecteurs, les gens qui lisent la presse de cinéma, c'est un mois, évidemment, sur lequel on compte, quoi. On sait que les gens sont au rendez-vous et qu'ils ont envie de lire ce qu'on peut écrire. Donc, ça, déjà, ça crée un espèce de blocage très fort, très violent. Pas peut-être le même qui vit l'industrie avec les salles fermées, mais ça fait un petit peu quelque chose du même genre. Ensuite, il y a aussi le fait que des événements comme le Festival des Cannes, quelque part, organisent les calendriers de la profession des distributeurs, des producteurs, etc., mais aussi de la presse. Et que, évidemment, c'est le festival où on voit à peu près, on peut voir la plupart des films qui, après, petit à petit, arrivent dans les salles au long de l'année. Parfois, les gens qui lisent ne se rendent pas compte, mais c'est aussi les lieux où on peut faire des entretiens qui, après, au moment de la ressortie, peuvent donner de la matière pour enrichir un peu le contenu. Donc, de tous ces points de vue-là, c'était très compliqué. D'autant plus qu'aussi, l'idée du label, d'un point de vue critique ou de la presse, c'est quelque chose de particulier. On comprend le soutien, en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, de ça? Et en même temps, c'était arrivé dans une période tellement incertaine que je crois qu'on a mis du temps à réaliser que le festival n'a pas eu lieu. Il y a des fois où, même parfois, ça m'arrive de dire « Ah mais c'est vrai, il n'y a pas eu Cannes cette année. » On voit après coup, presque, par ricochet.
Le manque.
Oui.
Alors, donc, la Mostra qui se tient physiquement. Et il y a un autre festival très important de la rentrée qui vient de s'ouvrir. C'est celui de Toronto. C'est la grande fête nord-américaine du 7e art. Traditionnellement, elle aussi, hein, rampe de lancement pour Hollywood, hein, de ses films à Oscar. Alors, à la différence, Toronto a fait un autre choix que la Mostra. Fait un choix d'être vraiment très largement virtuel. Il y a quand même des projections dans des salles, mais en gros pour les festivaliers nord-américains, hein, évidemment pour cause de quarantaine. À peine 50 films sont au programme, hein, contre 300 habituellement. Alors, écoutez le reportage de notre correspondante au Canada, Pascal Guéricola.
Pas de foule en délire se pressant sur le tapis rouge à Toronto cette année, mais une édition qui prend son parti de cette absence de paillettes et de vedettes hollywoodiennes. Cameron Bailey dirige le Festival international du film de Toronto.
Cela nous permet de choisir les films qui nous transportent le plus, de fournir le meilleur reflet du cinéma d'aujourd'hui. En plus de la pandémie, nous témoignons aussi de ce qui se passe dans les rues du monde entier. Les manifestations pour la justice, pour les droits civiques, contre le racisme. Nos programmateurs ont trouvé des films qui témoignent de cette actualité. De nouvelles voix, de nouveaux réalisateurs sortent de l'ombre.
Jusqu'à lundi, les internautes canadiens auront ainsi accès au documentaire « En route pour le milliard » du Congolais Dieudo Hamadi, qui a filmé les survivants de la guerre de Kisangani allant demander justice dans la capitale Kinshasa. Autre voix forte du festival, celle du franco-ivoirien Philippe Lacote, qui présente « La nuit des rois », un récit autour de la terrible prison d'Abidjan, la Maka. Un long métrage aussi présenté à Venise. Et le très attendu film de Francis Lee, Ammonite, mettant en vedette Kate Winslet et son histoire d'amour avec une jeune femme au 19e siècle, sera également présenté. Des courts-métrages comme celui du réalisateur québécois David Finlay, Found Me, se taillent également une place dans la programmation allégée de 2020. La diffusion numérique de cette édition satisfait pleinement David Finlay, qui souhaite que son incursion dans l'univers de la lutte rejoigne le plus d'internautes possible.
Dès le début, ça faisait partie vraiment de mon approche pour le film. Je voulais juste le mettre en ligne, gratuitement, à l'automne ou comme début hiver, parce que c'est un film assez sombre, qui se fait dans les ténèbres de l'hiver, si on veut. J'ai projeté plein d'offres de distribution, de télé et tout, parce que moi, avoir l'étampe d'un festival aussi prestigieux, c'est tellement une belle rampe de lancement que, pour moi, après ça, let's go, on est prêt à juste le partager tout de suite là, avec le plus de gens possible.
Le festival se poursuit donc en grande partie en mode virtuel jusqu'à samedi prochain. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Donc voilà, un Toronto en mode virtuel. Bon, encore faut-il pouvoir quand même avoir, j'imagine, une accréditation. Étienne Aulagnier, comment on fait dans ces conditions et qu'on est distributeur pour trouver des films? Parce que vous, traditionnellement, jour de fête, vous envoyez des équipes à Toronto?
Oui, alors Toronto, c'est un festival où on va On va régulièrement, effectivement, à la fois pour acheter des films et pour en vendre. Dans ce contexte, c'est effectivement très complexe. Donc, pour les vendre, on fait un peu comme à Cannes. C'est-à-dire que le marché du film de Cannes a eu lieu malgré l'absence du festival. D'ailleurs, ça a été assez incroyablement organisé. Donc, on a pu quand même montrer les films qui avaient été sélectionnés à Cannes.
Il y avait des projections virtuelles
pour les acheteurs. On essayait de recréer un peu l'excitation cannoise avec la difficulté que à Cannes, c'est des salles entières de 1200 personnes qui vibrent à l'unisson pour un film. Et que là, derrière un écran, c'est un peu plus complexe de créer ce buzz, mais on a quand même réussi à un peu travailler, alors pas dans les mêmes proportions qu'à Cannes. Toronto, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, aussi bien pour les acquisitions que pour les ventes, on échange par lien, on est attentif au retour de la presse, etc. Et là, j'ai reçu encore hier deux liens de films envoyés par des confrères qui nous proposent donc ces films et qui nous proposent de les voir en ligne. Alors, c'est complexe parce que c'est vrai que les festivals, c'est un endroit où on se retrouve et on s'enferme pendant 15 jours en général avec un planning qu'on construit à l'avance, des projections, etc. Là, on fait un festival à distance et finalement notre vie quotidienne, notre travail quotidien, les appels qu'on reçoit font que c'est très difficile en fait de se mettre dans cette espèce d'ambiance et de regarder à heure fixe un film quoi. Alors en général, on rate la projection, on demande un lien, etc. Enfin, c'est pas simple.
Et puis dans un festival physique, il peut y avoir un effet buzz, il peut y avoir des effets d'emballement. La presse s'enthousiasme pour un film, serbo-croate, ça peut inciter à aller le voir alors que c'était pas au programme.
Oui, absolument. Alors, il faut s'en méfier quand on est acheteur de films parce que le buzz peut aussi retomber. Mais parfois, effectivement, un film qui n'est rien avant le festival devient un gros film, entre guillemets, à la fin. Ça nous est arrivé l'an dernier avec Papicha, par exemple, avant Cannes. Papicha, personne ne connaissait la réalisatrice.
Mounia Medour,
Lina Koudry avait joué dans quelques films, mais elle n'était pas encore reconnue, ou en tout cas connue du public. Et puis, à la fin du festival, après de multiples projections, des projections pour les exploitants de salles, pour la presse, pour le public, on a senti qu'il se passait un truc. Et ce truc s'est concrétisé plus tard, quand on a sorti le film. Donc, c'est long, mais c'est vrai que c'est né à Cannes. C'est né à Cannes et c'est indéniable. Voilà.
Parce qu'il y a quelque chose que le retour individuel ne peut pas fournir, qui est effectivement quand on est en festival et qu'on sort d'une projection, il y a quelque chose qui se sent. On sent l'esprit.
Il y a une alchimie.
Voilà. Il y a un truc qui s'est produit entre le public et le film qui se déroule sur l'écran. Et en sortant, on le sent. Et on peut avoir les sentiments d'un film qui pourrait effectivement rencontrer un public. Et peut-être que l'addition d'un retour individuel, de tous les retours individuels de chaque spectateur, donnerait pas ça.
Alors que dans la salle, 1 plus 1 égale 3, quoi.
Voilà.
Si tout le monde pleure, ou si tout le monde rit, et puis on voit aussi si la salle est pleine à craquer. Quand des films à Toronto marchent très 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 fort, on ajoute une projection, deux projections, trois projections, on voit les gens qui attendent devant la salle, enfin ça aussi ça participe de l'ambiance.
Et Fernando, il y a quelqu'un des Cahiers qui du coup participe au TIFF, au Festival de Toronto en mode virtuel ?
Oui, parce que là effectivement les accréditations étaient... Mais quelque part, c'est un avantage, c'est beaucoup plus simple. Faut pas envisager d'y aller.
C'est ça, il y a moins de coûts pour le support.
Ouais. Et donc là, et en plus, parfois, les places pour la presse sont limitées. Or là, je pense que c'est devenu beaucoup plus facile d'avoir une accréditation virtuelle. Et en même temps, je pensais aux complications, effectivement, du fait d'aller à Toronto, rentrer dans une grande ville. Ça peut aussi, j'imagine, jouer un rôle dans ce changement du visage global des festivals de cinéma qui a une tendance avec le temps à s'approcher des grandes villes. Et donc logiquement, dans ce contexte, même envisager le fait d'aller à Toronto, ça devenait très compliqué. Venise, ça va, enfin quelque part. Moi, j'étais à Bologne. Bon, ça fait pas trop peur de dire tiens, je vais pouvoir aller à Bologne. Mais imaginons, j'espère que pour le moment où Berlin arrivera, les choses seront un peu mieux. Mais imaginez le fait de rentrer dans une énorme ville dans le contexte de la Covid, ça devient, c'est quelque chose envisagé quoi.
Donc, les salles, les festivals en mode virtuel, ça pose aussi la question quand même de l'avenir, enfin en tout cas du présent des salles de cinéma. Alors, je vous propose cette fois d'aller voir du côté de la Chine. La Chine qui précède tout le monde à chaque fois. C'est le pays qui a connu avant tout le monde l'épidémie et puis c'était le premier pays à fermer ses salles. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Pékin où depuis le 20 juillet, les salles obscures ont retrouvé la lumière.
Oui, alors partiellement, car il y a des restrictions sanitaires, mais aujourd'hui, effectivement, on a 299 cinémas et multiplex qui offrent des projections dans la capitale chinoise, alors qu'avant l'été et depuis l'hiver dernier, on a quand même eu 7 mois d'écran noir ici.
Les projections ont donc repris, Stéphane, mais comme partout, cette réouverture s'accompagne, vous l'avez dit, de restrictions.
Oui, ce sont les producteurs de pop-corn et de crème glacée qui font la tête, car depuis la réouverture, on ne peut toujours pas s'empiffrer en regardant défiler les images. Alors moi, je suis gourmand, mais enfin, je m'en fiche un peu du cinéma façon canapé devant la télé. En tout cas, les confiseurs font la tête, car il est interdit de manger dans les cinémas chinois, toujours aujourd'hui. Il est interdit aussi de partager un film en amoureux ou alors avec un siège d'écart. C'est toujours la règle. Les transports, le train, l'avion ont été libérés de cette contrainte. Mais pour les salles de cinéma, on est toujours donc à un siège sur deux. La jauge de remplissage étant limitée à 50%, pas plus. Et évidemment, on doit voir son film masqué. Donc on peut dire qu'en gros, on est aujourd'hui à un peu plus de 30% des spectateurs du monde d'avant dans les salles. Le secteur a beaucoup souffert. Je lisais l'autre jour dans le journal Nikkei que 13 000 sociétés de production de cinéma et de télévision avaient mis la clé sous la porte en Chine pendant la crise sanitaire. Les grands studios ont licencié 20% de leurs employés, paraît-il. Et puis, je vous parlais des salles. Et bien là aussi, c'est un vrai champ de bataille. On a quand même perdu pas mal de troupes côté distributeurs. 6200 cinémas ont rouvert dans tout le pays contre plus de 10 000 avant la pneumonie virale. Et enfin, dernier chiffre, après j'arrête, promis, pour la première semaine d'août, le box-office était à 8% des recettes de la même semaine il y a un an.
Ça redémarre lentement, on l'a compris. Mais alors, côté film, Stéphane, est-ce qu'il y a des locomotives qui permettent d'aider au redémarrage ?
On a en ce moment effectivement près de 45 films à l'affiche et le carton du moment c'est 800 bye bye comme on dit ici, non pas au revoir mais 800 en chinois. Vous entendez peut-être derrière moi sur la bande-annonce, ça bastonne, ça fait vibrer les cœurs des nationalistes, bye bye, 800 donc. Et le coup de bluff d'un général de l'armée nationaliste en 1937 face à l'armée japonaise qui encercle Shanghai, le général dit qu'ils sont 800 mais en réalité ils sont moitié moins, hein, c'est résistant face à l'armée japonaise, ils sont 400. Alors c'est un remake de remake, hein, bye bye, un Dunkerque à la chinoise, un éloge du mensonge qui marche bien, plutôt bien en tout cas dans les salles, alors que le film a dû reporter sa sortie, l'avant-première a même été annulée.
Et parmi les films du moment, il y a Mulan qui est sorti ce vendredi 11 septembre sur les écrans chinois et pour lequel les avis sont visiblement partagés.
Oui, alors la campagne de boycott n'a pas atteint le continent, vous l'imaginez, hein, les appels des Hongkongais et des exilés Ouïghours contre ce Disney qui cumule les défauts, selon eux. Il a été tourné dans des décors magnifiques au Xinjiang, mais non loin des camps de rééducation pour la minorité musulmane. Et l'héroïne du film, donc l'actrice Liu Yifei, a pris le parti de la police hongkongaise, donc il y a eu des appels au boycott. Ces appels sont pas arrivés sur le continent et il est plutôt attendu par les fans de Liu Yifei, donc par l'actrice qui n'en pouvait même plus, disent-ils sur les réseaux sociaux, d'attendre ce remake à gros budget, car c'en est un encore. Et puis on a aussi pas mal de critiques des spectateurs et surtout de la presse qui a trouvé que le film ne respectait pas assez la culture chinoise ou empruntait trop aux codes occidentaux. Un exemple, par exemple, l'héroïne, le chi, donc l'énergie vitale pour l'héroïne, ressemblerait trop à celui de Star Wars, à la force du Jedi, et ça n'a rien à voir, disent les spécialistes. Donc voilà, un film qui ne respecterait pas assez la culture chinoise. Pareil pour 800, d'ailleurs. Certains ont trouvé que ça respectait pas assez l'histoire chinoise. Donc les spectateurs, vous le voyez, ont un peu la dent dure. Ces deux films sont attendus comme des films qui doivent ramener les spectateurs en salle, mais encore une fois, parfois, ils sont assez critiqués et les spectateurs veulent du Hollywood chinois aujourd'hui en Chine, mais du Hollywood très très chinois quand même.
Merci Stéphane Lagarde. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial permanent à Pékin. Donc voilà, en Chine comme ailleurs, hein, en fait on l'entend comme on a entendu en France, hein, cet été, Étienne Aulagnier, les salles estiment avoir besoin de blockbusters en fait pour ramener les spectateurs. Ce qui a dû un peu vous hérisser, vous qui avez joué le jeu, enfin un jour de fête à distribuer dès la réouverture le 22 juin, et il y avait un fils notamment sur les écrans.
Bah, ce qui est compliqué, c'est que de manière, je dirais, macroéconomique, le marché du cinéma en France, il est lié à une diversité d'œuvres. Mmh. Et pour que ce marché fonctionne, que les gens trouvent tous leur compte sur les écrans, il faut du cinéma américain grand spectacle et des films d'auteurs français ou étrangers. Et c'est vrai que cet été, comme la plupart des grands studios américains ont décalé, annulé leur sortie, repoussé au calendrier grec, à part Tenet, qui était attendu du coup par les exploitants un peu comme le Messie, l'offre de films ne correspondait pas à l'habitude. Donc il y a eu beaucoup plus de films français. La part de marché des films français était du coup énorme et beaucoup de films étrangers et de films de patrimoine, donc sortie par des confrères spécialisés. Donc il y a eu une belle offre finalement quand on regarde le calendrier de sortie, il y avait toujours 10-15 sorties par semaine. Mais ce qui avait changé par rapport à l'avant, c'est que avant il y a toujours 400 films à l'affiche en permanence et puis 10-15 qui sortent par semaine. Là, il y avait pas ces 400 là, il y avait les nouveaux et puis parmi ces nouveaux, il y avait pas de films américains. Donc effectivement, les salles ont fonctionné plus ou moins selon leur spécialité. Les salles à réessai, paradoxalement, ont un peu moins souffert. Elles ont souffert parce qu'il n'y avait pas autant de monde, loin s'en faut, que d'habitude dans les salles, mais beaucoup moins souffert que des salles entièrement commerciales pour lesquelles le cinéma américain et les grosses comédies françaises sont le pourvoyeur habituel. Quoi.
Là, Étienne, on est à combien de fréquentation? Parce qu'on était très bas en juillet. Est-ce que ça a un petit peu repris avec la rentrée?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu une semaine assez forte, voire très forte, celle du 26 août, avec la sortie
et
de Tenet, qui était donc très attendue, et de Effacer l'historique, qui a du coup très bien marché. Mais on sent que ça s'est à nouveau un peu essoufflé début septembre. Donc c'est compliqué parce que je pense que là, c'est vraiment la situation sanitaire qui limite l'envie des gens. Les gens avaient à nouveau envie d'aller voir des films. Ils ont vu des bandes annonces de bons films. Il y a une offre énorme qui arrive là sur les écrans en septembre, octobre, novembre de films justement canois. Enfin, les films que les gens ne connaissent pas encore, mais qui sont pour certains formidables. Et on a, nous, un petit peu peur que l'envie soit coupée par ces conditions sanitaires. Donc on va se battre pour que les films puissent sortir dans des bonnes conditions. Mais après, voilà, on est pas responsable de ce qui peut se passer par ailleurs.
Cette offre énorme, Fernando Ganzo, mais par ailleurs assez inhabituelle hein, par rapport à une rentrée cinéma classique, et puis le fait que tout le monde attend la deuxième vague, qui ne sera pas la deuxième vague Covid, mais plutôt la deuxième vague cinéma, c'est-à-dire que tout le monde anticipe un peu qu'à un moment donné, on va se retrouver submergé par les sorties de films. Comment on la vit quand on dirige un mensuel?
C'est vrai qu'on navigue dans des heures un peu... dans le brouillard un petit peu. On a eu de la chance parce que je suis d'accord à ce qu'il y ait Étienne, l'offre en septembre notamment, fin août, début septembre, c'est une bonne, comme on dit, une bonne rentrée. On s'est retrouvés, nous, dans les cahiers, très vite, avec un nombre de, on va dire, 3, 4, 5 films qu'on trouvait vraiment très très bons qui sortaient là en septembre. Et donc on a mis en valeur, ça va des Cagillionnaires qui sortent très tard dans le mois aussi avec le film de Miranda July, en même temps aussi que le film de Hong Sang-soo, La femme qui s'est enfuie, à un peu plus tôt dans le mois, le film d'Emmanuel Mouret, ou déjà sortie énorme de Sophie Le Tourneur. Donc ça fait une offre étrange, évidemment, c'est vrai, c'est cette espèce de... abondance des films français a créé, c'est un peu une blague ce que j'ai dit, mais de la même façon que le tourisme a dû un peu se renouveler, rester dans un tourisme français qui restait en France, quelque part le cinéma a prouvé un peu la même chose. Et en même temps, ça, très vite, on a vu effectivement les limites industrielles de ça pour que l'ensemble de la chose tienne. Par ailleurs, moi je suis espagnol et c'était exactement le même cas, c'est-à-dire c'est pas une affaire française. En Espagne, les chiffres de fréquentation sont plus bas, je crois qu'ici c'était à un moment donné 25%, en Espagne on était à 12-15. Mais dès qu'il y a eu la grosse comédie de Santiago Segura, qui avait réalisé il y a longtemps Torrente, un film peut-être aujourd'hui heureusement oublié, en France, ça fait venir le public en masse. Tenet a fait venir le public en masse. Et donc, on a vu que c'est le même schéma. Il faut de grosses comédies nationales ou de gros films d'action américains. Ce qui est normal parce que c'est pas non plus le moment dans lequel on pourra réinventer toute l'industrie pour que les chiffres, la fréquentation changent totalement de nature. Et dans ce qui concerne les sorties, il y a aussi une question importante par rapport à la critique des cinémas, c'est que il y a beaucoup plus de, comment dire, d'improvisation, j'ai l'impression. Il y a des films qui s'annoncent plus tard, des dates qui bougent. Quelque part, quand il s'agit un peu de voir qu'est-ce que le fort dans l'actualité, c'est là qu'on a un petit peu déstabilisé et qu'il faut un peu avoir des réflexes.
Alors, effectivement, vous le disiez, hein, quel avenir, enfin, en tout cas, la fréquentation dans les salles, évidemment, là, enfin, par nature, par définition, elle a chuté. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir? Enfin, est-ce qu'on peut imaginer que dans 2 ans, admettons, de nouveau, on retrouve la situation hantée, ou au contraire, est-ce qu'on s'achemine vers une transformation la fréquentation en salle. Je dis ça parce que Elisabeth, vous nous avez rapporté de Venise un entretien très intéressant avec le directeur du marché de la Mostra, Pascal Dio, qui lui imagine ainsi l'avenir.
On a vu pendant la pandémie l'accroissement de la place et de la puissance des plateformes. Je ne crois pas qu'il faille opposer automatiquement la salle et les plateformes. Au contraire, je crois qu'il faut, en travaillant de concert, trouver une méthode.
Sauf que là, la salle, je me fais peut-être l'avocate du diable, hein, mais la salle, elle est en train de mourir. Enfin, en tout cas, aux États-Unis.
Je vais être honnête, la salle, il y aura moins de cinéma. Il faut se rendre à l'évidence, malheureusement.
De salles de cinéma.
Oui, il y aura moins de salles de cinéma. Et il y aura deux types de salles de cinéma, comme il y a déjà. Hein. C'est-à-dire, il est multiplex pour les grandes productions internationales ou nationales, les grosses comédies, etc., etc. Et des salles plus pour les cinémas d'auteurs, mais qui ne seront pas que des salles de cinéma. Il faudra, parce que pour attirer ça, il faut proposer autre chose que le cinéma. Avec des talents et avec un événement à chaque fois. C'est-à-dire apporter un petit plus.
Enfin, si j'ai bien compris hein, ce que vous dites, il y aura d'un côté les multiplex pour Tenet et Black Panther 23. Black Panther. Et puis, d'un autre côté, les gens iront voir des films, mais des films griffés, quoi. Comme on parle de griffes pour voilà. Une marque, que la griffe soit la Mostra ou que ce soit les Cahiers du cinéma.
Absolument. Absolument. Et ce seront, si je puis dire, des événements culturels, dans des mini-centres culturels, parce que c'est ça qui est, à mon avis, important. Comme les multiplex offrent aussi de la nourriture ou des choses comme ça, pourquoi ces salles-là aussi ne pourraient pas avoir aussi un café ou quelque chose, ou une bibliothèque, enfin, c'est une librairie, etc. C'est tout un ensemble culturel, à mon avis, dont les gens ont besoin et qui permettra des discussions, des échanges, qui fera que les gens reviendront vers ce type de cinéma et soutiendront ce type de cinéma.
Voilà, hein, Pascal Dio, le directeur du marché de la Mostra, je ne sais pas si ça vous parle, Étienne, ou si c'est une vision de cauchemar, ce type de perspective.
Non, c'est intéressant d'y réfléchir, évidemment, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, pendant le confinement, il n'y avait plus de salles, il n'y avait que les plateformes ou les télés pour voir des films, donc ça a transformé le monde. Moi, je crois quand même beaucoup à la salle de cinéma comme lieu d'échange, et c'est un peu ce qu'il raconte dans cette interview, c'est que pourquoi on va au cinéma, c'est parce qu'on voit des films dans des très belles conditions, mais aussi que c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on se retrouve avec les amis, et c'est en général inscrit dans une soirée plus large, où on suivi d'une discussion ensemble, ou effectivement avec un réalisateur, enfin, voilà, le lieu de vie, on en a besoin. On a besoin de salles de concert. D'ailleurs, dans la musique, on est plutôt revenu au concert physique. Alors, au cinéma, c'est pas du direct. Il y a ce côté direct s'il y a une présence de l'équipe, mais il y a le côté direct d'avoir des amis avec soi. Donc ça, je pense que ça va perdurer. Après, oui, il y a un risque que dans certains pays, ça s'est déjà passé avec le passage au numérique, quand il n'y a pas une volonté politique de maintenir ces lieux de vie, comme c'est un modèle économique fragile, hein, ça, finalement, les gens ont tendance à dire que le billet est cher, mais c'est pas très cher par rapport à ce que coûtent les films. Et du coup, s'il n'y a pas une vraie volonté politique, la salle de cinéma peut pas vivre toute seule. C'est très difficile. Donc, en France, on a la chance d'avoir un CNC, une volonté politique qui font qu'il y a une diversité de salles, une diversité de films. Et tant qu'il y aura cette volonté politique, je crois que les lieux d'échange, il y en aura. Peut-être moins, peut-être différent, peut-être qu'il faut effectivement que les lieux se repensent un peu parce qu'on est dans un monde moderne et qu'on a notamment un public jeune à convaincre et que ce public jeune qui est habitué, lui, qui est né avec les plateformes, avec un iPhone dans la main, etc., l'écran, effectivement, il est multiple aujourd'hui pour lui, et s'il n'y a pas une incitation à venir dans la salle, justement, pour que ça soit un vrai événement, c'est difficile. Mais je crois quand même qu'il y a ce besoin assez vital de se retrouver qui rendra le cinéma toujours indispensable dans nos vies.
Et vous parliez de la volonté politique, justement à Angoulême, le Premier ministre Jean Castex a annoncé des blocages de fonds, a annoncé une enveloppe de 250 millions d'euros, charge au CNC après à répartir toute la filière, puis des aides spécifiques pour les salles de cinéma. Voilà, ça c'est...
165 millions.
165 millions.
Ouais. Non, effectivement, cette annonce, elle était très attendue par la profession parce que pendant la fermeture des salles, le CNC n'avait plus de recettes. Or, on est un système très vertueux, le cinéma, mais si le CNC n'a pas de recettes, ce système vertueux ne peut plus fonctionner. Donc là, le fait que le CNC soit, je dirais, remis à flot et ait des perspectives de relance permet d'être un peu plus serein. Après, effectivement, tout dépend de la manière dont cette relance se fait, quelles sont les priorités politiques en matière de relance. Mais bon, voilà, on a bon espoir que des discussions entre nous tous permettront de construire une année 2021 et les années futures un peu plus heureuses que cette année 2020.
Fernando Gonzo, dans le son, Pascal Diot parlait de griffes. Peut-être, est-ce que vous y songez, vous, à une griffe cahier du cinéma, ou vous pourriez imaginer avoir une salle de cinéma griffée cahier du cinéma?
Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il faut, c'est faire l'effort de la part de toutes les forces possibles de sauver, de protéger la salle en tant que dans le côté industriel que cela implique. On a toujours dit que le cinéma est une industrie artistique. Et, enfin, artistiquement, si vous voulez, je crois que personnellement, je m'inquiète moins. Je pense toujours que les choses continuent à se faire d'une façon ou d'une autre et que le besoin du cinéma existe et que les gens continuent à le voir comme ils ont pu, mais ils ont continué à le voir. Ce qui prouve que le public a besoin de ça. C'est pas pour faire un peu la blague, mais c'est un peu comme Pasolini décrivait dans le Décameron. Effectivement, si on se retrouve, on se raconte des histoires, comme on peut, on voit des films. Et encore une fois, c'est le côté artistique ou le rapport qu'un spectateur peut avoir à un film, ça, je crois qu'il sera pas, il sera préservé. Ça n'a pas été touché. Aujourd'hui, on dit qu'il faut des événements. Et effectivement, ça se fait. C'est un travail que tous les exploitants en France font très bien, d'ailleurs. C'est étonnant de voir jusqu'à quel point il y a des rencontres. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a une espèce de réseau en France des cinéastes, des critiques, des gens qui vont animer des séances, rencontrer le public, qui est impressionnant. Et c'est vraiment précieux. Et en même temps, on voudrait un peu continuer à rêver à cette utopie du public qui va dans le cinéma sans savoir ce qui se passe. Il rentre dans la salle, découvre un film... peut-être c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile, au moins dans certaines villes. Il est essentiel que ce soit protégé le plus possible.
Bon, encore faut-il quand même avoir des films à montrer, parce que pendant quelque temps, les tournages ont été à l'arrêt, évidemment à Hollywood, et puis même maintenant, c'est encore compliqué de tourner avec les mesures sanitaires. Alors, qu'en est-il pour l'une des plus puissantes cinématographies au monde, celle de Bollywood? Bonjour, Com Bastin, vous êtes correspondant en Inde, la deuxième industrie cinématographique mondiale. Comment le milieu du cinéma en Inde a-t-il été impacté par la pandémie?
Eh bien, tous les tournages ont été stoppés net le 25 mars, lorsque le Premier ministre Narendra Modi a décrété le plus grand confinement du monde. Cette annonce a été effectuée seulement 4 heures à l'avance, donc on imagine l'impact que ça a eu sur l'industrie. Je vous propose d'écouter comment ça s'est passé pour Rahul Vora, un acteur franco-indien basé à Bombay.
Je partais le 19 mars pour un tournage d'un film à Lucknow. C'était un des 5 projets dans lesquels j'étais investi. Déjà 2 films et 3 séries web. J'ai eu un coup de fil de l'assistante qui me dit « Monsieur, on annule, on va reporter un peu le tournage, donc je vous tiens au courant à la fin du mois. » Et nous, on est le 7 septembre et j'ai toujours pas de nouvelles.
Alors, il n'y a pas que les tournages, mais évidemment les salles de cinéma qui ont aussi fermé. Celles-ci n'ont d'ailleurs toujours pas rouvert. Au total, on estime que sur ces 6 derniers mois, l'industrie du cinéma, du théâtre a perdu 350 millions d'euros en Inde, sauf les plateformes qui, elles, se frottent les mains. Netflix et Amazon Prime ont gagné 65% d'utilisateurs durant le confinement. Aujourd'hui, le cinéma indien, Bollywood en tête, réclame la réouverture des salles avec le hashtag Save Cinema.
Alors, il faut dire que la pandémie est actuellement en pleine expansion en Inde. Est-ce que les tournages arrivent à reprendre?
Ça dépend des États, mais le Maharashtra, donc l'État de Bombay et Bollywood, les autorise depuis début mai. Il faut cependant se plier à des règles sanitaires draconiennes qui compliquent beaucoup la reprise. Distanciation sociale, pas plus de 50 personnes par plateau, port de kits de protection pour toutes les équipes techniques. Beaucoup de stars et de producteurs dénoncent le manque de soutien du gouvernement au milieu du cinéma dans son plan de relance, en particulier pour les petites mains du 7e art. Rahul Vora témoigne.
Ça a été très, 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 très dur, notamment pour les techniciens, les électros, dans le costume, les maquillages. Je pense que c'est des gens qui survivent du jour au lendemain avec le salaire quotidien. Ici aussi, on a les tournages commencent, mais c'est dur parce qu'il faut tourner avec une équipe très réduite. J'ai tourné une pub il y a à peu près 20 jours. C'était lunaire et féerique. Tout le monde complètement habillé en blanc, avec des gants, avec des masques, on se croyait dans le bloc opératoire.
À Bangalore, où je me trouve, devait commencer en mars le chantier d'une cité du film géante de 600 000 m². Tout a été évidemment mis en pause avec l'arrivée du virus. Le ministre en chef de l'État a néanmoins réaffirmé que sa construction aurait bien lieu.
Donc voilà, hein, l'industrie en Inde qui attend, difficile. Reprise, néanmoins, bon, on en parlait. Alors là, pour la situation française, là, il y a des films nous qui nous arrivent sur les écrans septembre, octobre, novembre. Je sais pas si c'est vrai que c'est des questions quasi difficiles à répondre parce qu'on sait. On navigue dans le brouillard, ce que vous disiez, Fernando.
Oui, ce qui est inquiétant, justement, pour le côté qu'est-ce qu'on peut fournir aux salles, même aux plateformes, c'est qu'un des pays où il y a le plus du mal à reprendre le tournage, c'est les États-Unis. Et que ce soit pour les séries, pour tout. Alors qu'en France, en Europe, on tourne petit à petit, on a certains pays d'Asie aussi. Les tournages américains, c'est très, très compliqué. Il y en a plein qui commencent et qui s'arrêtent. Et effectivement, à un moment donné, n'importe qui, même ceux qui se frottent les mains aujourd'hui, vont se retrouver un peu qu'est-ce qu'on peut offrir. Donc la situation, comment elle va évoluer, ça se trouve, cette espèce de été français qu'on a eu dans les salles va devenir aussi un printemps dans lequel il y aura un pourcentage des films nationaux dans chaque pays plus élevé que d'habitude. Est-ce que l'industrie sera capable de s'adapter à ça ou est-ce que il faut qu'on assume que ces pourcentages qu'on donne de fréquentation des salles, il faut un peu les oublier, ils vont être forcément bas et il faut faire, faut les combler quoi. Et c'est le devoir un peu de tous les, avec tous les moyens possibles.
Etienne. Peut-être qu'il faut qu'on prenne les choses aussi comme une opportunité, en tout cas pour le cinéma français. Il y a la possibilité peut-être d'exister un peu davantage sur les écrans et si le public revient de démontrer qu'on est peut-être un peu moins dépendant qu'on ne le dit du cinéma américain ça serait au moins quelque chose
de positif
dans cette période.
Donc jour de fête, vous êtes apprêté à distribuer Slalom, c'est ça?
Alors on s'apprête à distribuer là dans les semaines qui viennent. D'abord le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. D'ailleurs sur lequel on organise beaucoup de projections débat en avant-première. Donc il y a tous les soirs à peu près 250 personnes qui voient le film et on espère qu'il pourra sortir dans des bonnes conditions.
Un documentaire sur les violences policières dont on reparlera.
Voilà. Après on va sortir un film qui est en compétition à Deauville après avoir reçu le label canois qui est Last Words de Jonathan Nociter et puis Slalom effectivement le 4 novembre qui lui aussi avait reçu la sélection officielle canoise et qui était en compétition à Angoulême où il a gagné d'ailleurs un prix et qui est un très très joli premier film français de Charline Favier.
Voilà donc quand même un beau programme à venir. Merci à tous deux, Fernando Ganzo, Étienne Olani. On se quitte sur ces interrogations et puis ces espoirs. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde sur RFI.